Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Comme l'écrivait Stefania, une jeune fille de la classe de Valeria Costea en Roumanie, le mot « récupération » a des significations diverses et contradictoires. Si l'on peut récupérer d'une maladie ou récupérer un objet perdu, on peut aussi récupérer une idée pour la détourner de son sens premier et l'utiliser à son profit. Dans le premier cas, récupérer, c'est retrouver quelque chose, un état, qui nous appartient et que nous avions perdu. Dans le deuxième cas, récupérer, c'est faire sien, à son profit, quelque chose qui ne nous appartient pas. En d'autres termes, c'est du vol. Or, c'est cela, la récupération, sur quoi repose le système politique, économique et idéologique qu'on ne sait même plus comment appeler. Néolibéralisme, ultralibéralisme, libertarianisme, illibéralisme ? Le fait même qu'on n'arrive plus à nommer le système dans lequel nous sommes est révélateur de la déréliction qui nous envahit. Ne pas pouvoir nommer, c'est ne pas pouvoir résister. Essayons donc de nommer ce qu'il nous arrive. Qu'il s'agisse de néo, d'ultra, d'il ou de tarianisme, c'est toujours la racine libère, libre donc, qu'on entend. Ce mot de liberté, ce beau mot de liberté, est devenu un piège. Un piège parce que l'idéologie politique et économique qui régit un monde désormais mondialisé fonctionne sur un postulat terriblement efficace, la récupération. C'est le propre de toute société de limiter les pulsions, d'organiser les échanges, d'institutionnaliser la spiritualité, le désir, l'éducation et d'intégrer les arts. Chaque société se spécifie de l'organisation complexe de ses différents systèmes. Y a-t-il une spécificité de l'organisation illibéraliste ? Oui. Et non. Non parce que tous les moyens seront bons, et oui parce qu'il y a bien un maître mot qui organise tout le système, et c'est le mot de récupération. Et la récupération, c'est précisément cela, que tous les moyens soient bons pour arriver à ses fins. Le système politique, économique et idéologique dans lequel nous essayons de survivre est un système qui se distingue par sa cupidité et son cynisme. Rien ne doit être perdu, et tout doit être à la fois vendable, rentable et repérable. La liberté, la vraie liberté, celle qui n'a pas besoin de dire son nom, celle même qui souvent se perd en disant son nom, celle qui parfois s'ignore d'être libre, est par définition non repérable, non vendable, non rentable. Parce qu'elle échappe à toutes les cases, à tous les codes, à tous les marchés, elle est l'ennemi des pouvoirs. Les pouvoirs autoritaires qui se mettent en place partout, quelle que soit leur forme, ont toujours haï la liberté. Car la liberté s'oppose au pouvoir. Pas à la loi. Cela, c'est précisément ce que font les illibéralistes, prendre et exercer un pouvoir qui échappe à la loi, ce qu'on appelle en psychanalyse la perversion. L'illibéralisme dans lequel nous avançons a trouvé un moyen extrêmement efficace et extrêmement pervers pour lutter contre la liberté qui fonde notre humanité et contre tous ceux qui se battent pour être libres. Il se présente comme un système libre et récupère l'idée de liberté pour s'en prétendre le défenseur, alors même que la seule liberté qui est défendue est la liberté de faire tout, et surtout n'importe quoi, pour dégager plus de profits, pour amasser plus d'argent. C'est une liberté qui refuse toute loi, et d'abord celle du langage, en ne tenant jamais parole, et en donnant aux mots un sens contraire à celui que nous connaissons. Il est un précédent que nous avons tous en mémoire. Ce sont les mots « le travail rend libre », cyniquement affichés au fronton des camps de concentration nazis, où le travail forcé, arbitraire et fort rentable pour nombre d'entreprises aujourd'hui encore florissantes ne conduisait pas, on le sait, à la liberté, mais au four crématoire ou à une mort par faim et épuisement. Nous vivons aujourd'hui dans une organisation politique, économique et idéologique de nos vies, où nous sommes chaque jour volés, où la terre est pillée, où des espèces animales et végétales sont assassinées, où la culture, la solidarité, le temps de vivre, nos émotions, nos sensations, notre réflexion, tout ce qui fait notre humanité est piétiné dans un unique but, dégager des profits, au mépris de toute loi et de toute vie, et avec une constante, la récupération. L'illibéralisme fait feu de tout bois et récupère tout, pourvu que ça lui serve. Tout est bon, absolument tout, du moment que le profit est à la clé, et ce tout inclut vol, crime, viol, pédophilie, mafia, guerre, génocide, extermination des cultures, des territoires, des peuples, des langues. Mais aussi, et de façon beaucoup plus invisible et consentie, intellectuels complaisants, artistes vendus, scientifiques malhonnêtes, mais encore absolument tout. Les mots, les idées, les sentiments, les découvertes. Tout est bon pourvu que le système puisse le récupérer. Rien ne doit être laissé à l'innocence. Tous les pouvoirs traquent ce qui les défie, notamment pour asseoir symboliquement leur puissance. Mais là, précisément, c'est le symbolique, ce qui nous rend humains, qui est récupéré à des fins réelles de profit financier. Le système dans lequel nous vivons traque et traquera quiconque représente un danger. Et bien avant même la traque, il organise avec notre consentement parfois la récupération de trois éléments. Nos données, via les réseaux sociaux, l'informatisation de nos données, y compris les plus sensibles, la mise en réseau et l'utilisation marchande de ces données via Internet. Nos idées, par la concentration des médias, par un pouvoir directement exercé sur la production intellectuelle, scientifique et artistique, et par un pouvoir de moins en moins indirect sur l'éducation et la recherche, ainsi que par un détournement constant et volontaire de notre attention et de notre réflexion sur des sujets futiles et éphémères. Le traitement de l'actualité par les médias, la propagation d'une sous-culture du divertissement, ainsi que la marchandisation de l'attention contribuent massivement à un abrutissement des populations qui, asservies, renoncent à leur créativité et à leur vitalité. Enfin, nos mots mêmes et ce qui nous fait humains, à savoir notre rapport au langage, soit en détournant les mots de leur sens, et dans ces chroniques j'ai tenté d'en donner quelques exemples, soit d'une façon plus vaste encore, en rendant la parole incertaine et non fiable, par le biais de fake news, mais aussi par toutes les promesses trahies, ou encore par un tel aplanissement de l'esprit critique qu'on préfère ne plus rien croire plutôt qu'avoir à trier le vrai du faux. Soit, encore, par une prostitution constante du langage, par la communication et le marketing, mais aussi par l'expansion du développement personnel, des coachings en tout genre, ou de tout ce qui désacralise le langage pour tenter de s'en faire les maîtres autoritaires. En fait, et c'est bien là qu'est le problème, l'idéologie mondialement répandue est celle d'un cynisme éhonté, où tout est permis dès que quelque chose est possible. Autant dire que c'est aller contre des siècles où l'humanité s'est construite contre sa propre barbarie. Le système qui s'est mondialisé est extrêmement dangereux parce qu'il est extrêmement plastique, il s'adapte en permanence. De lui-même même, il est prêt toujours à récupérer quelque chose. Or, il y a dans notre façon d'être humain, et même dans notre plasticité cérébrale, une propension à recycler ce que nous apprenons. C'est même cela qui est à la source de la réflexion et de la création. Mais l'assimilation qui transforme et apporte au corps social ces trouvailles, ce n'est pas la récupération la plus vile à laquelle nous assistons aujourd'hui, où quelques-uns volent éhontément le bien commun des idées, des ressources, des cultures, de nos forces, à leur seul et unique profit. Ce n'est plus la structure, le système, l'organisation politique, sociale, religieuse, économique ou idéologique qui transcende chacun. C'est la chose la plus basse, la plus vulgaire, la plus barbare. Avec un mot d'ordre qui, lui, ne change pas et qui semble désormais aller de soi, une chose, un être, une idée, une découverte, un concept, une passion peut exister et sera protégée, à l'unique condition que ça serve, d'une façon ou d'une autre, l'enrichissement du système économique, politique et idéologique qu'est l'illibéralisme. Rien ne doit être perdu, tout doit être récupérable et récupéré, y compris parfois comme marginalité nécessaire pour légitimer le pouvoir. Tout ce qui n'est pas récupérable sera traqué par tous les moyens, car l'illibéralisme ne supporte aucune perte. Pour nous, dès lors, il nous faudrait, pour échapper à ce pouvoir tentaculaire et de moins en moins rampant, perdre et gâcher. Seulement voilà. Depuis trois générations, disons depuis la fin de la guerre mondiale, et de façon exponentielle, puisque cela a commencé des siècles avant, on nous a éduqués à rentabiliser notre temps, à ne pas gâcher les ressources de la planète, à nous épanouir pour donner le meilleur de nous-mêmes. Il nous reste peu d'espace libre et peu de temps. Il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste encore un peu ce qui se passera de mots, ce qui échappera au concept. Nous, qui avons tant besoin des mots pour nous repérer. Nous, dont la chair tendre, l'humanité vulnérable, est tissée de langage. Pour échapper à cette récupération qui fera de ce que nous avons de plus précieux un produit qui enrichira ces dealers, nous avons deux possibilités. Un positionnement radical consistant soit à ne produire ni idées, ni discours, ni concepts, ni œuvres, afin qu'il n'y ait rien à récupérer, soit à produire du non-sens, tel que l'ont expérimenté par exemple le mouvement Dada ou la poésie sonore, ou encore à produire des œuvres qui, par leur style, ne sont pas immédiatement récupérables, telles que l'a fait Jacques Lacan pour la psychanalyse, ou telles que le font les artistes, dont l'œuvre, même analysée sous toutes ses coutures, continue toujours de recéler une part d'ineffable. Le second positionnement serait de mettre en commun nos imaginations, nos fantaisies, nos talents pour créer des espaces où vivre notre humanité. Les deux solutions ont leurs inconvénients. On peut choisir selon son tempérament et selon son goût, selon les moments et selon les circonstances. Face aux parasites qui se nourrissent de nos forces, de nos vies et de nos rêves, nous trouverons, ensemble et subjectivement, les ressources pour leur résister et faire vibrer la beauté fragile et endurante de notre humaine condition.